7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, direction le Sénégal à la rencontre de ceux qu'on appelle les enfants fantômes.
Oui, fantômes ou invisibles, hein, deux mots pour désigner une même réalité. Ces enfants sans état civil, c'est-à-dire n'ayant pas été déclarés à la naissance. Et les derniers chiffres de l'UNICEF sont impressionnants. Près de 230 millions d'enfants de moins de 5 ans vivent aujourd'hui dans le monde sans aucune existence légale. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne sont les zones les plus touchées. Et l'Afrique de l'Ouest aussi, notamment le Sénégal. Bonsoir Amélie Tulé, en direct de Dakar.
Bonsoir Michael.
Alors là encore, hein, les chiffres donnent le vertige. On compte au moins 538 000 enfants fantômes aujourd'hui au Sénégal, soit un petit Sénégalais sur quatre qui n'est pas enregistré à l'état civil. Et pour bien comprendre le phénomène, vous êtes allé à Pikine, Amélie, dans la banlieue de Dakar.
Oui, nous sommes dans un quartier pauvre de Pikine. Dans cette maison vivent quatre familles. Radi Diallo a trois enfants. Pour ses jumeaux, elle a fait les démarches auprès de l'état civil, mais pas pour son dernier fils.
Celui-là n'a pas de papier. Quand il est venu au monde, j'étais malade, épuisée. Et le papa était trop occupé par son travail. Et puis il n'y connaît rien. Il m'a dit, c'est à toi de le faire.
Dans la pièce à côté, Awa Thiam passe de la crème sur le corps de sa petite dernière avant de l'habiller. Ses deux filles sont enregistrées, mais pas ses deux premiers garçons. Elle les a eus jeunes, elle venait à peine d'arriver en ville. Deux naissances dans la même année, c'était trop, elle était dépassée.
J'ai été souffrante après les deux accouchements et j'ai laissé à chaque fois passer le délai pour les papiers. Mon mari travaillait et je n'avais vraiment personne pour m'aider. Aujourd'hui, pour l'école, c'est un vrai problème.
Un problème pour l'inscription, évidemment. Alors souvent, l'école publique accepte les enfants du CP au CM2, même sans papier. Mais après, sans acte de naissance, tout s'arrête. Car pour passer l'examen d'entrée au collège, une pièce d'état civil est obligatoire.
Et d'où bien sûr aussi un risque de déscolarisation. Mais comment faire, Amélie, et le peut-on pour tenter de rattraper la situation?
Alors si la première année de l'enfant est passée, les parents peuvent aller au tribunal pour un jugement d'inscription à l'état civil. Une démarche que peut entreprendre l'enfant lui-même, une fois majeur. C'est ce qu'est en train de faire Maguette Dio, il a 26 ans.
Ne pas avoir d'acte de naissance me pose beaucoup de problèmes. Par exemple, une fois j'ai travaillé comme journalier au port de Dakar pour une société qui faisait du thon. Et je n'ai pas pu avoir de contrat.
Voilà, sans état civil, pas de contrat légal, pas de droit de vote, pas de passeport, bref, des difficultés tout au long de la vie. Même votre mort ne peut pas être déclarée. Et pour les politiques publiques, ça veut dire qu'au niveau municipal comme national, il manque des données essentielles pour planifier sur les questions de santé ou d'éducation.
Les problèmes en cascade, hein, on comprend bien. Mais comment expliquer qu'il y ait encore tant d'enfants sans acte de naissance en 2016 au Sénégal?
Alors il y a un manque d'informations, une méconnaissance des procédures, une distance aussi vis-à-vis de l'administration. Si vous regardez, Michael, une carte du Sénégal dans les zones reculées du sud et du centre du pays, moins d'un enfant sur deux est inscrit sur les registres d'état civil. Laetitia Bazzi est responsable du programme Protection de l'enfance à l'UNICEF.
Les populations sont éloignées des centres d'état civil, mais on a aussi également un problème de qualité, je dirais, de services d'état civil. Vous avez des ruptures de stock, de registres ou d'extraits de naissance, ce qui fait qu'on va peut-être facturer le coût de la reproduction, de la photocopie d'un extrait. Vous avez aussi l'exigence, et ça je pense que c'est une contrainte majeure, c'est qu'on demande aux parents de produire des pièces d'identité pour pouvoir déclarer leur enfant à l'état civil. Alors qu'effectivement, dans d'autres pays, deux témoins justement se pallient à l'absence de pièces d'identité des parents. Et ça, c'est un facteur d'exclusion assez fort.
Le Sénégal a lancé un programme de modernisation de l'état civil. En attendant, des audiences foraines permettent régulièrement de régulariser des milliers d'enfants d'un coup. Autre stratégie de l'État et des ONG, coupler les campagnes de vaccination avec l'enregistrement des enfants non inscrits.
Amélie Tulé, en direct de Dakar, merci beaucoup.
Et après le Sénégal, l'Iran, Michael, l'Iran où informer reste encore trop souvent un délit.
Un métier à haut risque hein, que celui de journaliste. Notre consoeur iranienne Narges Mohammadi en a fait la douloureuse expérience. Elle a été condamnée en appel avant-hier à 10 ans de prison pour réunion et complot contre la République islamiste ainsi que pour propagande contre le régime. Bonsoir Alexandra Akoun.
Bonsoir Michael.
Alors Narges Mohammadi est également directrice du Centre de défense des droits humains, centre fondé en 2001 par l'avocate iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, exilée à Londres, et qui joue en quelque sorte hein, la porte-parole de la journaliste. Et vous venez précisément de la rencontrer pour nous de passage à Paris.
Oui, car avec l'aide de Reporters sans frontières, Shirin Ebadi tente depuis des mois d'alerter la communauté internationale sur le sort de Narges Mohammadi, qu'elle considère comme sa fille. Âgée de 44 ans, la journaliste a été condamnée à 6 ans de prison il y a quelques mois avec l'échec de son appel avant-hier. La voilà face au total à 16 ans de détention. En plus, Narges est très malade. Shirin Ebadi.
Elle est dans un état de santé très inquiétant. Pour autant, son moral est très bon. Elle est très forte. Et malgré toute la surveillance à laquelle elle est soumise, elle parvient à écrire, donc elle produit sans cesse, elle arrive à faire sortir ses textes de prison.
Et le cas de Narges Mohammadi, Alexandra, n'est évidemment pas unique, loin de là.
Et non, et Reporters sans frontières considère même l'Iran comme l'un des pays les plus répressifs envers les journalistes, malgré les promesses d'ouverture d'Hassan Rouhani, arrivé au pouvoir en 2013.
Le métier de journaliste est un des métiers les plus dangereux qui soient en Iran. Un grand nombre des détenus dans les prisons iraniennes sont là simplement parce qu'ils ont écrit. Le gouvernement iranien, M. Rouhani, M. Khamenei, essaye d'étouffer la société civile. La place de Narges et des défenseurs des droits de l'homme n'est pas à la prison.
30 journalistes et citoyens journalistes sont actuellement emprisonnés en Iran, faisant du pays, selon RSF, l'une des 5 plus grandes prisons du monde pour les professionnels de l'information.
Alexandra Akoun, merci et merci à Massoum Elaïdji pour la traduction simultanée.
Rien à voir, Michael, mais absolument passionnante cette enquête de nos confrères de la BBC sur le repos et le bien-être.
Oui, enquête à grande échelle. Hein. Plus de 18 000 personnes sondées dans 134 pays, en partenariat avec un collectif d'experts, de scientifiques. Objectif, comprendre ce que repos signifie dans des cultures très différentes et chez des individus de tous âges, de toutes catégories sociales. Comment aiment-ils se reposer? Quelles sont les activités qui procurent selon eux le plus de repos? Et quels liens font-ils entre repos et bien-être? Une première analyse des résultats vient d'être mise en ligne sur le site de la BBC avant la totalité de l'étude courant 2017. Et déjà un enseignement, quel que soit le pays ou la culture d'origine, l'écrasante majorité des sondés affirme que pour être réellement reposé, le moyen le plus simple et le plus efficace est d'être seul.
Ah, j'en
tout
étais sûr.
Seul, tout seul, Nicolas. Une solitude choisie qui nous permet de nous écouter, davantage concentrer sur nos sensations physiques, nos émotions, nous retrouver enfin seuls avec nos pensées. Et parmi toutes les activités pratiquées en solitaire, la grande gagnante est là, la lecture, pour plus de 60% des personnes interrogées, suivie par les promenades dans la nature, écouter de la musique, et en quatrième position, ne rien faire du tout, absolument rien, une non-activité, hélas synonyme de paresse et donc culpabilisante, nous dit l'étude. Alors que tous sont d'accord, évidemment, sondés comme experts, la sensation de repos et le bien-être sont liés. Plus je me sens reposé et mieux je vais. Éloge de la paresse et de la solitude à méditer. Enfin, et ça pourrait aussi figurer dans cette étude de la BBC, devinez ce qui va se passer ce soir à Reykjavik, la capitale islandaise, entre 22h et 23h, heure locale.
Je n'en sais absolument rien, Michael.
Eh bien rien, presque. Le noir, toutes les lumières de la ville vont s'éteindre et les habitants sont invités à faire de même chez eux. Plus de 9 sur 10 ont d'ailleurs l'intention de jouer le jeu, selon un sondage ce matin. matin de la télé nationale islandaise. Pourquoi ? Simplement pour permettre à chacun d'admirer au mieux ce soir les aurores boréales. Que l'obscurité soit la plus complète et la pollution lumineuse minimale, demande la municipalité. Capitale la plus septentrionale du monde, Reykjavik est l'un des meilleurs points d'observation pour ce type de phénomène naturel. À lundi.